Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à l'accès au traitement contre le cancer en Afrique, contre les cancers d'ailleurs je devrais dire. Une rencontre a eu lieu au mois de février au Palais des Congrès à Paris, intitulée « La première journée internationale du cancer en Afrique ». L'objectif est de faire le point sur les recherches, la formation, les formations et les programmes sur le continent africain. Alors comment améliorer l'accès au traitement contre le cancer? Que faut-il faire en termes de prévention et de dépistage? Que prévoir en termes de formation et aussi d'échanges Nord-Sud, mais aussi Sud-Sud. Et ils sont nombreux autour de cette table pour parler de ce sujet important qui est la lutte contre le cancer. Le docteur Raymond Goudou-Kofi, qui est ministre de la Santé et de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Le professeur Judith Didi Koulibaly, qui est chef du service adjointe d'oncologie au CHU de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le professeur Charles Gombe Mbalawa, qui est chef du service de carcinologie et radiothérapie au CHU de Brazzaville au Congo. Le docteur Alain Toledano, qui est chef du pôle médecine et cancérologie de l'hôpital américain de Paris, directeur de l'Institut de radiochirurgie de Paris et co-organisateur de cet événement, et également le professeur Dapa Diallo, chef du service d'hématologie oncologie médicale du CHU du Point G à Bamako, au Mali. Bonjour à tous les cinq, merci beaucoup d'être là avec nous pour parler de la lutte contre le cancer. Je vais vous donner la parole tout de suite, docteur Alain Toledano. Pourquoi avoir organisé un tel événement sur une première journée internationale du cancer en Afrique? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cette question?
Cet événement devenait une nécessité. La collaboration, de fait, est une collaboration amicale qui existe au quotidien. Elle commence par un échange de patients, mais elle est évidemment née du fait que nous avons fait nos études ensemble, nous avons appris la cancérologie ensemble.
Alors l'accessibilité. Échange de patients, c'est-à-dire en gros des patients qui n'ont pas accès au traitement dans leur pays d'Afrique et qui viennent du coup se faire soigner en France, c'est ça?
Pas forcément. Des patients migrants, on connaît l'imprégnation de la communauté africaine en France et l'imprégnation de la communauté française en Afrique. Ces échanges de fait naissent des collaborations entre les continents et les pays. Alors il est vrai que la chance d'un système français de pouvoir avoir accès à certaines technologies, et nous avons développé ensemble des projets qui nous permettent aujourd'hui de collaborer sur nombre de développements. Ces développements en termes de formation médicale, ces développements en termes de recherche, nous ont conduit à organiser ces échanges et cette journée qui pour nous est un point majeur qui va nous permettre de construire et d'envisager l'avenir différemment.
Docteur Alain Toledano, ça veut dire qu'il y a une forme de coopération, je dirais informelle, qui s'est mise en place de fait, comme vous l'avez dit, parce que vous avez pour certains fait vos études ensemble. Et là, il s'agirait d'un peu mieux organiser cette coopération?
Alors je dirais structurer, dynamiser le réseau, pouvoir offrir une visibilité et pour les jeunes, les étudiants qui ont moins d'accès à cette formation bipartite et pouvoir initier des programmes d'échange sur des technicités, du développement et qu'on puisse apprendre les uns des autres. On sait qu'il y a une richesse en cancérologie en Afrique sur une épidémiologie un peu différente, un enseignement clinique qui a encore ses lettres de noblesse, que la France a beaucoup à en apprendre, et à l'inverse, on a effectivement en France certains pôles d'excellence qu'on se doit de partager.
Docteur Raymond Goudou-Kofi, vous êtes ministre de la Santé et de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. C'est une préoccupation de votre gouvernement, mais des gouvernements en général, de rendre ces traitements contre le cancer accessibles en Afrique?
Absolument. Vous savez, lorsque vous arrivez à la tête d'un département, en tant que ministre de la Santé, il est évident que toutes les pathologies sont importantes. Mais s'il y en a une qui a vraiment retenu l'attention du gouvernement, c'est bien celle de la question problématique du cancer, de la prise en charge du cancer, parce qu'elle fait partie des demandes permanentes des populations que je retrouve dans mes parapheurs, pratiquement sur 10 à 15 parapheurs par jour, j'en ai pratiquement 8, où il y a des demandes d'accompagnement, d'appui, de traitement, et ce sont vraiment des cris de désespoir des populations. Donc c'est important que je puisse porter cela à la connaissance du gouvernement pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et la réponse est très positive.
Et l'obstacle principal, c'est quoi? C'est le coût des traitements? C'est la technicité? C'est quoi?
Non, je pense que, particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est d'abord le dépistage. Je pense que les populations, nous sommes amenés à faire comprendre aux populations qu'il est important de venir très tôt se faire dépister. Après la phase de dépistage, évidemment, on passe bien sûr à la phase du traitement. Alors évidemment, c'est sûr que n'ayant pas un centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire, pour les raisons que vous savez, hein, longtemps qu'on échange vous et moi sur les antennes de RFI, nous avons bien sûr un problème de centre de radiothérapie. Nous faisons des efforts avec nos collaborateurs pour que l'accessibilité aux médicaments puisse être de plus en plus, je veux dire, adressée donc à la population. Mais il est certain que si nous dépistons suffisamment tôt, cela nous permet bien sûr de mettre les populations sous traitement, les malades sous traitement. Et puis nous avons quand même d'excellents rapports avec donc nos partenaires français qui nous appuient. Donc c'est vraiment le dépistage au départ. Et puis à ce moment-là, tout le protocole se déroule et on peut avoir des résultats.
On reviendra longuement sur cette question du dépistage et de la prévention parce qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Professeur Charles Gombe Mbalawa, je l'ai dit, vous êtes chef du service de carcinologie au CHU de Brazzaville au Congo. Quels sont les cancers les plus fréquents en Afrique, beaucoup de cancers d'origine infectieuse?
Oui, c'est ça. Des cancers qui sont dus à des micro-organismes, en particulier les virus. Vous avez parlé tout à l'heure des cancers du col de l'utérus, le cancer du foie, un cancer particulier de l'enfant qu'on appelle le lymphome de Burkitt, qui sont des cancers qui sont surtout dus à des micro-organismes et des virus. Et récemment, on a mis en évidence la présence d'un cancer particulier du col de l'utérus qui, lui, serait dû à un parasite qui touche les enfants et qui touche aussi les adultes et que l'on voit souvent dans les rivières, qu'on appelle la bilharziose. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cancers qui sont dus à ces micro-organismes. Et puis, il y en a un qui émerge, qui n'est pas dû à un micro-organisme dont on ne connaît pas toujours la cause, c'est le cancer du sein, qui est très fréquent ici et qui est en train de monter en fréquence chez nous aussi. Et ce sont ces éléments-là qui font déjà une certaine particularité des cancers en Afrique.
Est-ce qu'on a des chiffres, ou justement, en termes d'épidémiologie, on n'a pas tellement de chiffres précis sur la fréquence de ces cancers?
Alors, vous savez, les chiffres chez nous partent de ce qu'on appelle les registres des cancers. Et maintenant, il y a des registres des cancers en Afrique, des registres basés sur la population, donc qui permettent de donner des chiffres. Je peux vous dire, par exemple, qu'à Brazzaville, le cancer du col de l'utérus est autour de 24 pour 1000 habitants. Donc, on a ces chiffres-là à partir justement des registres des cancers. Et récemment, nous avons mis en place un réseau de registres africains qui va nous permettre de rassembler tous ces chiffres pour pouvoir les publier.
Et voilà un cancer qu'on pourrait bien éviter avec le dépistage, on y reviendra.
C'est pour non ça, seulement le dépistage, mais on peut vacciner.
Et on peut vacciner, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. On reviendra aussi justement sur le vaccin. Professeur Judith Didi-Koulibaly, vous êtes cancérologue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a longtemps dit que les cancers, c'était un peu une maladie des pays du Nord, des pays occidentaux. Est-ce que vous trouvez que dans la population africaine, il y a encore cette image-là où les gens ont vraiment conscience que ça concerne aussi l'Afrique?
Oui, ces dernières années, les gens ont vraiment conscience, aussi bien les professionnels de la santé que la population. Les gens sont conscients que ce n'est plus une maladie des pays du Nord, c'est une maladie qui touche, qui est présente dans les pays africains, notamment d'Afrique subsaharienne.
Quelle est la disponibilité à Abidjan, Côte d'Ivoire, des traitements contre le cancer? Qu'est-ce que vous avez de disponible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors vous allez me dire, ça dépend de chaque cancer, mais quand même en gros. On a vu, la ministre de la Santé nous a dit, il n'y a pas de radiothérapie déjà, premier obstacle.
Oui, mais la chirurgie est disponible. Les chirurgiens de spécialité sont présents, notamment des chirurgiens spécialisés dans la chirurgie du cancer. Les traitements médicaux du cancer sont disponibles, notamment la chimiothérapie, l'hormonothérapie et même les nouvelles thérapeutiques ciblées sont disponibles. Et nous, en tant que spécialistes de la cancérologie, nous tenons à saluer et à remercier notre autorité de tutelle, Madame la ministre de la Santé, pour son engagement et pour l'investissement du gouvernement dans le fait que la Côte d'Ivoire doit avoir son plateau technique de radiothérapie.
Disponible, alors donc ces traitements médicamenteux, oui. Vous dites disponible, mais disponible à quel coût? C'est un des problèmes, j'imagine.
Oui, c'est vrai que le coût en est un facteur limitant pour une certaine frange de la population, mais à ce titre, on a également la pharmacie de la santé publique, qui est justement la structure mise en place par le gouvernement permettant justement d'avoir les médicaments anticancéreux à des coûts abordables pour les hôpitaux publics. Et puis récemment, nous avons eu l'honneur de voir notre gouvernement s'impliquer justement dans un partenariat pour rendre très accessible certaines thérapies ciblées du cancer du sein pour les femmes atteintes de cette affection en Côte d'Ivoire.
Professeur Dapa Diallo, j'aimerais bien qu'on parle maintenant du Mali. Vous êtes hématologue et oncologue médical au CHU du Point G à Bamako. Les auditeurs de Priorité Santé vous connaissent bien parce qu'on a fait de nombreuses émissions sur la drépanocytose. On va là plus particulièrement parler des cancers. Quels sont, même question je dirais que Judith Didi Koulibaly pour la Côte d'Ivoire, vous pour Bamako et pour le Mali, quels sont les traitements disponibles?
Merci Claire. L'activité d'oncologie médicale a commencé réellement vers les années 1992 au Mali, avec donc la création du service d'hématologie oncologie médicale de l'hôpital du Point G qui s'occupait à l'époque de cancers adultes et enfants. Et à partir de 2005, il y a l'unité d'oncologie pédiatrique qui a été créée avec l'appui du GFAP à l'hôpital Gabriel Touré. Et au début, c'était la chirurgie, parce qu'on avait d'excellents oncologues chirurgicaux, et la chimiothérapie qui est venue donc appuyer ce tableau technique.
Juste qu'on précise bien pour les auditeurs, la chirurgie, ça veut dire qu'on opère et qu'on enlève la tumeur.
Voilà, c'est ça, on opère, on enlève la tumeur, et la chimiothérapie, ça consiste à administrer des molécules qui vont détruire les cellules et puis d'autres cellules à leur passage. Donc, jusqu'à très récemment, c'est ces deux moyens qui sont utilisés, bien entendu, d'autres traitements tels que l'hormonothérapie. Et depuis un an, on a eu effectivement la chance d'avoir la radiothérapie qui est opérationnelle depuis quelques mois. Cette radiothérapie s'occupe actuellement de pas toutes les tumeurs, mais de certaines tumeurs, pour des raisons techniques qui sont pas encore tout à fait au point, mais enfin, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que on fait aujourd'hui la chirurgie oncologique, la chimiothérapie et la radiothérapie au Mali.
La radiothérapie est disponible au Mali. Je voudrais juste une réaction, docteur Raymond Goudou-Kofi. Ça vous fait quoi d'entendre que la radiothérapie est disponible au Mali et qu'elle l'est pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Je suis désolée, vous me connaissez avec mes questions assez brutes, mais qui a priori est un pays plus développé que le Mali.
Ah oui, mais d'accord, mais nous, je veux signaler que pendant 10 années, il n'y a pas eu d'investissement au niveau de
en
Côte d'Ivoire. Oui,
ans.
Un conflit qui a duré 10 ans. Je pense qu'à cette époque-là, c'était pas la priorité. La santé n'était pas la priorité. Alors maintenant que la santé depuis 2011 est une priorité pour le gouvernement actuel, nous avons tout est bouclé. Nous n'avons même pas une en route, nous avons même deux.
D'accord.
Nous
et avons... ça devrait être mis en place quand?
Alors justement, le centre de radiothérapie, je pense que d'ici mars, on va pouvoir faire la pose de la première pierre. Je pense que ces structures-là sont construites maximum en 18 mois. Donc je pense qu'au bout de 18 mois, on pourra mettre à la disposition. C'est important pour nous. J'en parlais souvent, c'est une priorité pour nous. Nous avons tout le dispositif en place, c'est-à-dire la chimio, tout le traitement, et malheureusement, nous n'avons pas la radiothérapie. Et cela coûte extrêmement cher au gouvernement de faire partie des malades à l'extérieur sans tenir compte de l'effet psychologique que cela entraîne lorsque on envoie quelqu'un seul, sans la famille, et se retrouve dans un milieu, je veux dire, étranger. Et tout ça devrait contribuer, n'est-ce pas, si les parents sont à côté, à faire baisser, bien sûr, la durée du traitement. Donc c'est important pour la Côte d'Ivoire.
Donc si je compte bien fin 2016, en gros, la radiothérapie
sera disponible. Absolument. Et en même temps, nous allons construire le centre d'oncologie et de radiothérapie, un grand centre qui celui-là sera nettement plus vaste, qui va prendre en compte les hospitalisations et qui le protocole a été signé donc en Corée en présence du président de la République. Donc nous en aurons pas qu'un seul, nous en aurons deux, et comme ça on va battre un peu le Mali, n'est-ce pas? Mais je suis très heureuse que nos amis maliens puissent avoir la radiothérapie, et puis c'est proche de la Côte d'Ivoire, si d'aventure on peut emmener quelques patients très rapidement là-bas
en attendant
que nous ayons le nôtre, ce serait une très bonne chose.
Le professeur Charles Gombe Mbalawa, qu'en est-il au Congo-Brazzaville? Quels sont les traitements disponibles?
Alors aujourd'hui, les moyens majeurs de traitement du cancer sont disponibles. Nous avons la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et bien sûr la chirurgie. En ce qui concerne les traitements médicaux, le problème reste le même partout, c'est-à-dire le coût, l'accessibilité. Et actuellement, le gouvernement est en train de mettre en place la couverture sociale universelle qui permettra alors de rendre accessible ces médicaments qui coûtent très cher.
Ça veut dire que le traitement du cancer sera compris dans cette assurance maladie ?
Exactement, c'est précisé comme ça puisqu'il y a un plan stratégique pour le cancer puisque ce programme, c'est pour les maladies non transmissibles, donc y compris d'autres affections cardiaques et pulmonaires, mais surtout un plan stratégique pour le cancer et qui inclut automatiquement cet aspect-là.
Docteur Alain Toledano, j'imagine que vous n'apprenez rien dans ce qui vient d'être dit là sur la question de la disponibilité des traitements, mais j'imagine que vous avez peut-être envie de réagir par rapport à ça.
Oui, d'abord de voir le formidable engouement des professions de santé et les soutiens politiques font que finalement le retard technologique va être rattrapé. Ce qui va être déterminant, on parlait du coût des médicaments avec des traitements parfois qui avoisinent chez nous les 2 à 3 000 euros par mois de médicaments. Je crois que le prix des traitements, c'est un peu le coût de l'innovation. On se fait dicter les politiques de financement des médicaments. L'Afrique réunie aujourd'hui sur une stratégie de réseau sanitaire de cancérologie a une force de frappe en termes de nombre de patients et de cas extrêmement intéressants pour la recherche. Donc faire évoluer les structures de recherche pourrait permettre de faire financer par l'industrie pharmaceutique des nouvelles études et des médicaments qui pourraient donner accès au monde à des connaissances nouvelles. Donc la structuration de la recherche en Afrique va être le verrou pour qu'on puisse avoir des médicaments peu chers et une santé qui s'exporte. Maintenant que les plateaux techniques vont émerger, il faut travailler sur ces réseaux médicaux, ces réseaux de formation et ces réseaux de recherche pour que l'Afrique propose une cancérologie différente.
Je voudrais revenir sur cette question du coût des traitements. Vous êtes en train de dire, je ne sais pas si je peux résumer comme ça, que l'Afrique devrait peut-être mieux négocier que la France avec l'industrie pharmaceutique, le prix des traitements, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
L'Afrique négocie. L'Afrique, d'abord, c'est plusieurs pays et chaque pays négocie différemment. Je crois qu'il y a des pays qui ont su avoir de très bonnes négociations et d'autres, pour des raisons qui m'échappent, ont eu des négociations moins difficiles. Moi, ce que je regarde, c'est que chaque cancer, c'est une histoire humaine, une histoire de famille. C'est quelqu'un qui s'en va et sa famille qui pleure. Aujourd'hui, à l'échelle étatique, à l'échelle suprastructurelle, on ne peut pas laisser les médecins en difficulté avec des familles dans la détresse. Il faut qu'on ait des réseaux organisés, politiquement soutenus, éventuellement avec tous les réseaux financiers derrière, pour que le patient africain comme le patient français puisse prétendre aux meilleurs soins.
Mais ma question, et j'imagine que vous essayez de l'éviter, c'était de savoir si finalement la France, les autorités françaises, négocient pas toujours très bien avec l'industrie pharmaceutique et acceptent des coûts exorbitants sur certaines thérapies ciblées, non ? Est-ce qu'on peut dire ça
ou... Les coûts des médicaments dépendent effectivement des pays dans lesquels on les vend. Il est vrai que la France paye plus cher certains de ses médicaments que d'autres pays en Europe ou d'autres pays africains, les firmes pharmaceutiques qui ont les brevets négocient. Alors, il est vrai que ça dépend de l'impact pour elles du marché, d'éléments de production. D'autres en parleront mieux que moi. Il est nécessaire d'adapter le coût du médicament à ce que peut payer la population, tant que faire se peut. Mais si on veut sortir de ce cadre-là, il va falloir promouvoir la recherche pour que l'Afrique soit promotrice d'une recherche clinique en cancérologie, si c'est possible, et avec la démographie africaine, si la médecine est très structurée et la politique le soutient, je crois que c'est possible.
Juste encore une dernière question, mais il y a une bonne partie de ces traitements, alors pas du tout sur les thérapies ciblées, bien sûr, parce qu'elles viennent d'arriver, mais qui sont génériquées dans ces traitements, non ou pas ?
Tout à fait, nous avons des molécules de chimiothérapie qui coûtent 50 à 100 euros par mois, qui sont accessibles, qui sont considérées comme étant peu coûteuses à l'échelle de la cancérologie, qui sont administrées au quotidien dans tous les pays africains, ceux qui sont autour de la table et bien d'autres. Et donc, il y a des traitements de très grande qualité qui sont effectués en cancérologie en Afrique. Là où ça devient un peu compliqué, c'est sur les plateaux techniques comme la radiothérapie ou autre, où il existe plusieurs degrés. Et là, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on voit que le virage a été pris.
Et on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. On parle donc de l'accès au traitement contre le cancer en Afrique. On évoquera évidemment la question de la formation, la question des échanges Nord-Sud. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'accès au traitement contre le cancer en Afrique. Ils sont nombreux autour de cette table pour en parler. Ils sont cinq, je vous les représente. Dr Raymond Goudou-Kofi, qui est ministre de la Santé et de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Le professeur Judith Didi-Koulibaly, qui est chef de service adjointe en cancérologie au CHU de Trècheville, aussi à Abidjan. Le professeur Charles Gombe Mbalawa, qui est chef du service de carcinologie et radiothérapie du CHU de Brazzaville, au Congo. Le docteur Dapa Diallo, qui est chef du service d'hématologie oncologie médicale du CHU du Point G à Bamako, au Mali. Et le docteur Alain Toledano, qui est chef du pôle de médecine et cancérologie de l'hôpital américain à Paris. Il est co-organisateur d'un événement qui a eu lieu au mois de février, une première journée internationale du cancer en Afrique. Docteur Raymond Goudou-Kofi, juste avant les informations, on était en train de parler du prix des traitements, une partie de contre le cancer, une partie de ces traitements sont génériqués, il y en a d'autres quand c'est des thérapies ciblées qui ne le sont pas et qui sont chères. Est-ce que vous essayez de travailler, je dirais, plusieurs pays africains ensemble pour négocier ensemble avec l'industrie pharmaceutique pour essayer d'avoir des tarifs plus intéressants? Le docteur Alain Toledano le disait, finalement l'Afrique c'est un énorme marché pour l'industrie pharmaceutique et elle pourrait baisser les prix.
Alors déjà, ce qui se passe, c'est que dans le cadre du VIH-SIDA, c'est ce que nous avons proposé au sein de la CEDEAO. Lorsque le président de la République, président Hassan Ouattara, était président en exercice de la CEDEAO, nous en avons profité pour faire passer cette idée dans le cadre du VIH-SIDA, et ça se passe très bien.
De prix différenciés Nord-Sud.
Voilà, des prix différenciés Nord-Sud. Maintenant, ce qu'il faudrait dans le cadre du cancer, je pense qu'il faut également que nous nous concertions dans ce cas-là. Je pense qu'il y a des spécialistes ici, mais moi-même, en tant que, je veux dire, pharmacien, parce que c'est ma profession de base, je me suis dit que pour le moment, nous négocions avec des grandes firmes pharmaceutiques. Et comme le disait le docteur Toledano tout à l'heure, c'est chacun essaye, n'est-ce pas, de faire en sorte de faire baisser les coûts. C'est ce que nous avons fait dernièrement avec un laboratoire. Nous avons signé un protocole d'accord. Je ne le citerai pas pour pas faire de publicité, mais c'est important et je pense que
vous avez obtenu un bon prix.
Ah, excellent. C'est-à-dire pour par exemple une spécialité qui coûtait en Côte d'Ivoire 153 000 francs CFA. Pour chaque traitement, aujourd'hui, nous sommes arrivés pour une personne à payer 15 000 francs CFA. Et puisque nous entrons dans le cadre de la couverture maladie universelle, ces 15 000 francs CFA vont être encore pris en charge, n'est-ce pas, lorsque ces personnes-là vont adhérer à seulement 1 000 francs par mois. Je pense que cela vaut le coup.
Donc, la mise en place de cette couverture maladie universelle?
Nous avons commencé. Nous avons commencé. Déjà, les enregistrements, le président de la République s'est déjà fait enrôler. Vous avez vu à travers la presse. On a commencé à faire enrôler les populations. Vous savez que le plus important pour nous, c'est que cette couverture maladie universelle, elle va s'étendre sur plusieurs années pour qu'on soit sûr qu'elle va bien fonctionner. Alors, il ne s'agit pas d'y aller tous azimuts. On va aller parler avec les secteurs qu'on a bien identifiés. Et à ce moment-là, les choses vont se passer correctement. Alors, je dois dire que c'est important. Les médicaments d'abord, j'en parlais tout à l'heure. Le dépistage, le traitement, et puis le reste suit. Mais c'est la prise de conscience pour un gouvernement. C'est ça qui est important. Lorsqu'un gouvernement privilégie les maladies qui sont de plus en plus recrutées dans nos pays, on arrive à ce moment-là à gérer et à informer les populations. C'est la sensibilisation, c'est le dépistage précoce.
En tout cas, c'est très intéressant de voir tous ces pays africains mettre en place un système d'assurance maladie. Mm-hmm. C'est sûr que moi, en 12 ans d'émission Priorité Santé, j'ai compris l'intérêt de la sécurité sociale. Absolument. Et à quel point c'est ça qui permettait d'accéder au traitement. Professeur Didi Koulibaly, vous êtes cancérologue en Côte d'Ivoire, mais vous êtes combien de cancérologues?
En Côte d'Ivoire, nous sommes 5 cancérologues. Pour les tumeurs solides adultes, mais il y a des oncologues pédiatres, il y en a 3, et puis il y a également des hématologues qui sont nombreux. Mais quand je dis 5, ça concerne les spécialistes de la cancérologie solide adulte.
On comprend que c'est pas beaucoup, on va faire un tour de table. Professeur Charles Gombe Mbalawa, vous êtes combien, vous,
au Congo-Brazzaville? Nous avons l'avantage d'avoir un diplôme d'études spécialisées à l'université Marie-Ngouabi sur la cancérologie. Et nous avons eu l'honneur de former d'autres collègues qui sont venus d'autres pays d'Afrique, dont les 5 qu'on vient de vous citer de Côte d'Ivoire.
Judith, Didi Koulibaly, ouais. Vous avez été vous former à Brazzaville. Exactement. D'accord, oui, très bien. Oui, oui. Bon, et alors, combien de cancérologues
à Brazzaville, aujourd'hui, 12.
12. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui, une fois formés, partent ailleurs, mais pas...
Non, ils sont au Congo. Certains sont dans la deuxième ville, Pointe-Noire. Il y en a 2 là-bas et les autres sont à Brazzaville, répartis entre les différents hôpitaux de Brazzaville.
Professeur Dapa Diallo, qu'en est-il au Mali? Vous êtes combien?
Ben nous, on est actuellement 3 oncologues médicaux, pas plus.
C'est ça, et pas de formation à l'université?
Pas de formation spécialisée au niveau de l'université. Effectivement, nos étudiants partent vers le professeur Gombe.
Je sens France. Que le docteur Raymond Goudou-Koffi veut intervenir, ministre de la Santé
juste
de Côte d'Ivoire.
Pour vous dire que...
Vous allez mettre en place aussi une formation en cancérologie.
Ça y est, on va ouvrir cette année. Je suis suffisamment battue, il faut que je le dise, quand même. Donc, on va ouvrir et je dois dire que...
À l'université de médecine. Une formation
oui,
en cancérologie.
Oui, en cancérologie. Nous avons 11 médecins actuellement qui sont dans les services et qui sont en attente justement de finaliser leur spécialité. Donc ça monte quand même à n'est-ce pas? Moi je suis combative là avec nos collègues spécialistes en oncologie. Je voudrais vraiment qu'on puisse faire ce pôle là. C'est important.
Ça me rappelle l'émission qu'on avait faite ensemble à Dakar au Sénégal avec 3 ministres de la Santé du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal et où il y avait des comparaisons en termes de budget et de ce que vous arrivez à obtenir de vos gouvernements. Docteur Alain Toledano, on est vraiment là au cœur du problème quand on évoque le nom de cancérologues sur le continent africain. Une des premières choses là-dessus, c'est la formation. Et c'est là que vous pouvez aider, vous, du côté français.
Alors, tout à fait. Bon, la chance, c'est d'avoir eu des structures universitaires qui aient rapidement proposé ces formations pour des raisons structurelles. Ce qui se passe, c'est que la cancérologie peut être exercée par des cancérologues spécialistes, mais les spécialistes d'organes, je vais m'expliquer, peuvent aussi faire de la cancérologie. Un gastro-entérologue peut traiter les cancers digestifs après avoir été formé. Un pneumologue peut traiter les cancers du poumon. Un dermatologue, les cancers de la peau, etc. Ce qui veut dire que lorsqu'on dit qu'il y a 1200 à 1500 cancérologues en France, il y a en plus de 10 000 cancérologues qui sont capables d'avoir une vision globale sur un parcours de soins, sur un organe donné. Je crois que les cancérologues aujourd'hui en Afrique ont le mérite non seulement de faire la clinique, la recherche, de structurer leur système de soins, mais en plus de diffuser cette cancérologie aux spécialistes d'organes, puisqu'il n'y avait pas non plus cet axe de cancérologie dans les autres disciplines. Donc ils ont plusieurs métiers. Là où ça peut être intéressant, c'est d'essayer d'avoir plusieurs bras pour faire cet enseignement, ces diplômes universitaires, ces formations, pour que les professionnels de santé sachent s'occuper du cancer bien plus tôt. Pour qu'on évite de voir arriver ces situations difficiles avec des patients qui ont des maladies avancées, où malheureusement souvent il n'y a pas grand chose à faire, et qu'on puisse arriver à intervenir précocement et plus efficacement.
Docteur Alain Toledano, sur ces questions de formation, donc on a bien compris qu'il y avait un centre de formation jusqu'à maintenant à Brazzaville au Congo, il y en aura un à Abidjan très prochainement, mais comment ça se passe? Est-ce que vous allez, vous par exemple, donner des cours et enseigner en Afrique? Vous faites venir, entre guillemets, des cancérologues africains en France pour les former, comment ça se passe ces échanges-là? Il y a les deux, vous allez me dire.
À chaque fois que j'ai l'occasion et que j'aurai l'occasion de voyager, voir mes amis dans chacun des pays, je le ferai. Je crois que c'est un engagement humain d'abord, et la médecine est un engagement humain avant d'être autre chose. Et cet engagement, on doit le prendre. Donc effectivement, j'étais à Abidjan où je vais retourner d'ici quelques mois. On a un programme qu'on va mettre en place également au Congo, au Cameroun, au Mali ou autre. De plus en plus de médecins cancérologues se sentent concernés en France. Et naturellement, voilà, nos cousins africains nous accueille favorablement. Je crois que ça va se développer.
Et il y en a qui viennent se former en France?
Tout à fait. Hein,
et alors, ma question, quand ils viennent se former en France, est-ce qu'ils retournent dans leur pays d'origine où ils ont tellement peu, je dirais, de moyens pour exercer leur spécialité qu'en fait, ils restent en France?
Alors, l'extrême force intellectuelle du médecin africain qui vient se former en général, c'est d'être responsable, redevable vis-à-vis de son pays. Et donc, on part se retrousser les manches et faire avec moins de moyens ce qu'on faisait en France, mais pour apporter quelque chose à son système. Donc dans la plupart des cas, on a des gens avec des histoires remarquables
et qui rentrent,
qui ont des parcours de vie incroyables, qui attendent 40-45 ans avant d'avoir accès à des moyens pour pouvoir exercer correctement leur métier. Je crois qu'il faut rendre hommage à tous ces gens qui lâchent leur vie personnelle, qui s'engagent dans des parcours de formation qu'on ne voit que très rarement à l'international, et ils font ça parce qu'ils sont patriotes. Et donc notre travail, c'est aussi de leur faciliter la vie. Et donc on doit s'engager, quand on vient nous faire honneur d'être formé en France, à essayer de rendre ça et de rendre plus facile les conditions d'exercice dans chacun des pays.
Professeur Dapadiello, c'est pas votre histoire ça? Vous êtes venu vous former en France, si je ne me trompe, et vous êtes rentré au Mali?
Je crois que c'est l'histoire de tous les spécialistes africains en fait. On est venu se former en France et puis après on a décidé de rentrer chez nous et de rendre service à nos parents qui ont payé l'impôt pour payer notre formation en France.
Docteur Raymond Goudou-Koffi, vous qui êtes ministre de la Santé, il n'y a pas quand même un peu une fuite des cerveaux?
Nous, particulièrement en Côte d'Ivoire, pendant la crise, oui. Mais aujourd'hui, il y a un engouement tel pour le pays, c'est-à-dire les Ivoiriens qui sont partis à l'étranger pour se former ont envie de rentrer. Et certains sont rentrés parce que je reçois souvent des courriers. Il y en a qui veulent rentrer et être rentrés à la fonction publique. D'autres nous demandent s'ils peuvent rentrer dans le privé. Vous savez qu'à
plus
ce
de
10
points de croissance en Côte d'Ivoire
en ce
moment.
Voilà. Et vous savez que le Premier ministre a même lancé une campagne justement pour que ceux qui sont à l'étranger, la diaspora comme on les appelle, puissent attraper, je veux dire, cette main tendue du président Alassane Ouattara pour qu'on puisse tous ensemble, n'est-ce pas, relancer surtout le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Le secteur privé aujourd'hui est en plein essor, on est en train de regarder au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que justement, pour les aider à améliorer les différents plateaux techniques. Alors, en termes de santé, puisque c'est pour ça que nous sommes là, et surtout dans le cadre du cancer, nous avons d'excellents rapports avec le docteur Toledano. Je pense qu'ils ont même des téléconférences régulièrement entre les spécialistes du cancer au niveau de l'hôpital américain et ceux en Côte d'Ivoire avec
pour étudier un cas, pour
des cas, voilà. Donc toutes ces démarches, toutes ces méthodes nous permettent justement nous au niveau du gouvernement de voir un peu les faiblesses que nous avons en termes de formation, en termes de technicité, et ça aide le gouvernement à pouvoir combler éventuellement les déficits et les silences sanitaires que nous avons tous sur l'étendue du territoire.
Je voudrais qu'on parle maintenant plus précisément de tout ce qui est prévention et dépistage. Vous êtes plusieurs à l'avoir évoqué dans cette émission. C'est un gros problème, hein, si on prend le cancer du col de l'utérus. Franchement, c'est un cancer qui pourrait être évité. On a déjà évoqué effectivement la vaccination. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, docteur Raymond Godou-Kofi, la vaccination contre le papillomavirus, elle est disponible en Côte d'Ivoire gratuitement, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Nous avons vacciné déjà 16 000 jeunes filles. Hein. Nous sommes éligibles donc au papillomavirus depuis 2012. Donc, on a commencé à l'intérieur
du pays.
C'est
avec l'Alliance Gavi, que vous avez...
Gavi, tout à fait, voilà. Donc, je me suis même rendue personnellement à Genève et j'ai donc rencontré les responsables parce qu'on était prévu pour, je crois, une année plus tard. Donc, je me suis battue, comme toujours.
Donc, la vaccination,
ça marche
c'est
très
chose.
Bien.
D'accord.
Ça marche très bien. Ensuite...
Alors, on va faire un tour de table sur la vaccination. Professeur Dapadiallo, la vaccination contre le papillomavirus, elle est disponible au Mali?
Effectivement, c'est une réalité depuis plus d'un an à travers l'Alliance Gavi, effectivement. Les jeunes filles sont vaccinées au Mali.
Professeur Charles Gombe Mbalawa, pareil
nous,
pour le Congo-Brazza.
Nous avons la particularité de ne pas être un pays éligible pour Gavi, mais sur la force des autorités, nous avons commencé la vaccination déjà dans deux localité à l'intérieur du pays et ça va s'étendre. Et
nous vaccination avons... gratuite hein, pour les gens, pour les jeunes
tout
filles
à
qui
fait. Bénéficient à ça. Et ensuite, nous avons aussi la vaccination contre le virus de l'hépatite B parce que certains cancers primitifs du foie sont dus au virus de l'hépatite B et ce sont les deux vaccins qui sont disponibles.
Vous avez raison de le rappeler et j'ai une question là-dessus d'ailleurs. La vaccination, elle se fait à quel moment? Est-ce qu'elle se fait à la naissance ou pas?
C'est dans le calendrier de vaccination.
Et là, il y a et un problème. On sait bien que la transmission mère-enfant, elle est à la naissance. Comment n'aboutit-on pas à une vaccination contre l'hépatite B à la naissance? Bien, je continue à rester estomaqué sur cette question-là.
Non, mais c'est tout simplement parce que par rapport à la formation du foie, il y a un certain nombre d'exigences qui fait qu'il faut attendre la maturation.
Ah, c'est pas du tout ce qu'on me dit, moi. Des médecins spécialistes de ça me disent que c'est évident qu'il faut vacciner à la naissance, que c'est qu'une question. Alain Toledano, je suis désolée, soyez direct, parce que c'est pas moi qui vais le dire, je suis pas médecin, il faut vacciner.
Non, je crois que la compétence sera aux pédiatres et aux médecins infectiologues pour cette vaccination spécifiquement. Hein, le cancérologue doit aider à diminuer le risque de cancer, mais il faut pas qu'il abîme la santé en voulant bien faire. On a de combat mené.
Non, mais on est bien d'accord qu'il faut vacciner à la naissance pour l'hépatite B, pour éviter la transmission mère-enfant.
Je réserve ma position.
Oh là, vous êtes... alors là, écoutez-moi, c'est ce que me disent des spécialistes. Docteur Raymond Goudou-Kofi, vous faites quoi, vous, alors, en Côte d'Ivoire?
Moi, je suis pas spécialiste, mais je raisonne, par logique. Hein,
c'est des médecins qui vont nous appeler, là. Je peux vous dire parce que ça réagit quand on fait ça.
Je pense que la PTME...
prévention de la transmission mère-enfant.
La prévention de la transmission mère-enfant, je pars que à partir du moment où on commence déjà à traiter la mère suffisamment tôt, alors qu'avant, il fallait attendre une certaine période. Maintenant, le protocole est qu'il faille commencer très tôt. Alors, le fait même de commencer très tôt et qu'on sait que les ARV sont des médicaments qui servent également dans le cadre des maladies opportunistes, telles que l'hépatite, je pense que le simple fait de mettre très tôt la mère sous traitement permet déjà de couvrir l'enfant à la naissance et renforcer. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire en sorte de mettre à la disposition les traitements d'oncologie pédiatrique suffisamment tôt, qu'ils soient moins contraignants. Et je pense que c'est le combat que nous menons aujourd'hui même à Abidjan avec la première dame, la disponibilité disponibilité du traitement oncologique pédiatrique moins lourd, c'est-à-dire pas ces gros comprimés qu'on écrase et qu'on donne aux enfants, et ces enfants supportent très mal, ils vomissent, et donc le traitement est remis en cause. Je pense que si on fait ça, on peut déjà attendre, n'est-ce pas, la période adéquate pour mettre l'enfant sur
On va continuer à parler prévention, on a parlé...
Oui. Que le cancer primitif du foie, l'âge moyen, c'est 34 ans.
C'est très jeune. Voilà. Très jeune. Absolument. Ouais. C'est très jeune, d'où l'intérêt de cette vaccination contre l'hépatite B, c'est important de le rappeler. Je voudrais qu'on continue à parler prévention et dépistage. Si on reprend la question du cancer du col de l'utérus, quand bien même il y a une vaccination contre le papillomavirus, le dépistage est important, essentiellement avec le frottis. Comment rendre ce frottis beaucoup plus systématique, vous qui êtes ministre de la Santé, Dr Raymond Goudou-Coffi?
Écoutez,
Vous passez aussi par la gratuité, là, peut-être, ou quoi?
La gratuité, mais surtout, comme je dis, il faut informer et sensibiliser les populations. Je me suis rendu compte dans le combat que nous avons eu par rapport à Ebola, que lorsqu'une population est bien informée, lorsqu'il n'y a pas le déni de la maladie, lorsqu'il y a l'acceptation par les populations à la base, très tôt, de ce qu'est une maladie et ce qu'il faut faire pour pouvoir ne pas avoir la maladie ou que la maladie s'aggrave, je pense qu'on réussit un combat. Et c'est notre rôle à nous, en termes d'information, tout gouvernement, d'aller à l'information, à la sensibilisation. Il faut mobiliser toutes nos équipes.
Est-ce que vous ne pensez pas que l'obstacle, il est financier? C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt l'impression d'être en face de populations qui sont parfaitement raisonnables. Vous avez pris l'exemple de Ebola. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est lié à une question d'accessibilité aux soins, de système de santé, bien plus que de responsabilité de la population. C'est-à-dire qu'en gros, si les femmes pouvaient aller faire ce frottis gratuitement, est-ce qu'elles ne le feraient pas? Remarquez, en France, on en a la moitié qui ne le font pas, vous allez me dire ça.
Bon, je veux dire que, vous savez, nos populations sont la plupart des populations analphabètes. En même temps, c'est un avantage, en même temps, c'est un inconvénient. C'est un avantage, pourquoi? Parce que quand on va vers elles, qu'on leur explique la dangerosité de la maladie et que nous-mêmes, gouvernement, avec nos équipes, on va vers ces populations à travers les cars mobiles. C'est une expérience extraordinaire. Prendre des
pour faire ce dépistage, pour faire ce frottis.
Absolument. Oui. Les femmes viennent. Personne n'a envie d'être malade. Il suffit seulement de savoir de quoi il s'agit. Leur montrer simplement des images en leur disant, si vous ne venez pas vite, voilà comment ça va évoluer et vous risquez d'avoir des complications. Si le gouvernement, lui, est prêt à faire une curithérapie, à mettre à la disposition de ces populations ce qu'il faut pour pouvoir faire un dépistage précoce et les prendre en compte, si le traitement est gratuit. Mais pourquoi est-ce que les populations ne viendraient pas? Il faut un travail phénoménal en amont à faire. Et ça, c'est le rôle du gouvernement à travers nos différents programmes de lutte contre le cancer. Et je pense que, et puis avec les ONG, je pense qu'il faut qu'on s'y mette réellement et permettre aux populations de venir vers nous pour faire le dépistage.
Professeur Dapa Diallo, vous qui êtes chef du service d'hématologie et oncologie médicale au CHU du Boinger à Bamako, au Mali, qu'est-ce qui est fait au Mali là-dessus, justement, en termes de dépistage et d'accès au traitement?
En ce qui concerne le dépistage du cancer du col, effectivement, il y a eu de gros programmes qui ont vraiment réussi et actuellement, ce dépistage est systématique. Je crois que la population a compris. Ça, c'est en ce qui concerne le col. En ce qui concerne la prise en charge du malade, notamment la chimiothérapie, ce qui s'est passé depuis 2009, Madame la ministre a parlé de Côte d'Ivoire et du Mali. Bon, je vais parler du Mali d'abord, ensuite je vais peut-être englober la Côte d'Ivoire et le Mali. En effet, depuis 2009, le gouvernement a décidé de mettre de l'argent pour payer les médicaments anticancéreux et les mettre gratuitement à la disposition des malades. Et depuis, tous les malades reçus au service d'hématologie et oncologie médicale reçoivent leur traitement gratuitement. Tous les médicaments anticancéreux sont donnés gratuitement aux malades. Mais le problème à ce niveau, c'est quoi? C'est que la plupart de ces malades sont reçus quand même à des stades très avancés de la maladie, stade 4 ou stade 3.
C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir très tardivement.
Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, c'est beaucoup plus du palliatif qu'autre chose. Et c'est là que je vais englober un peu l'ensemble des États pour dire que moi je considère qu'il faut revoir le problème autrement selon un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est comment arriver à faire un diagnostic aussi précoce que possible d'abord. Une fois qu'on a diagnostiqué, le deuxième défi, c'est comment proposer un traitement médical le plus standard que possible comme adopté ailleurs. Et le troisième défi, c'est, je dirais, de former un personnel compétent, nombreux pour faire face à cette pathologie-là. Et c'est là qu'on entre, bien sûr, dans le volet formation.
Et c'est là qu'on ne parle pas que des cancérologues, c'est qu'il faut parler aussi des radiothérapeutes, des biologistes, c'est tout ça.
Absolument, absolument. Et enfin, le quatrième défi, à mon avis, c'est d'éviter les cancers qui sont évitables. Je crois que si les gouvernements s'attellent à cela, on pourra faire un montage beaucoup plus intelligent que un coup, c'est de donner de l'argent pour payer des médicaments. Un coup, on fait la radiothérapie par là et par là. Bon, la radiothérapie est venue...
Il faut un programme global, c'est ça?
À mon avis, il faut un programme global qui implique notamment la formation de qualité, la formation de masse. Ceci me paraît extrêmement important.
Et quand on parlait tout à l'heure du cancer du col de l'utérus, le dépistage ne coûte pas cher. Pour le cancer du sein, il faut faire des mammographies. Ça coûte déjà un peu plus cher et c'est déjà aussi un peu plus compliqué à lire, non? Entre guillemets. Il suffit d'être formé, c'est ça?
Bon, c'est pas ça qui pose de gros problèmes actuellement en ce qui concerne la pratique dans nos contextes. La mammographie est bien faite, l'échographie mammaire aussi est bien faite. C'est pas tellement le problème. Ce problème, c'est que les malades ne viennent pas.
Mais est-ce que cette mammographie, échographie pour détecter le cancer du sein, elle est aussi gratuite au ministère? Vous avez dit que les traitements étaient gratuits, mais les gens viennent tard, peut-être parce que l'étape d'avant n'est pas gratuite, non?
Oui, absolument. Ouais. La mammographie ni l'échographie n'est gratuite au Mali, effectivement.
Et je précise que pour nous, elle l'est, avec un dépistage organisé en France. Vous avez peut-être envie de réagir là-dessus, professeur Charles Gombe Balawa.
Oui, je voudrais dire que, concernant la lutte contre le cancer, la première étape, c'est la prévention. Et la prévention inclut deux types d'actions. La première, c'est l'éducation sanitaire. Faire une éducation sanitaire large qui explique, qui expose, afin que les populations prennent conscience et ainsi vont immédiatement adhérer à un certain nombre de choses parce qu'elles les auraient comprises. La deuxième chose, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est la mise en évidence d'une lésion qui existe, donc d'une maladie qui existe, mais qui n'a pas de traduction clinique. Ce qui fait que la personne qui a ça se croit saine. Et ce qui fait que lorsqu'on met en évidence cette présence-là, en général, c'est 80 à 90% de chances de guérison. Donc ces éléments de prévention, comme politique large, diffusée à l'intérieur du territoire national et au-delà, permettront d'obtenir des malades qui vont être dans de grandes chances de guérison. Et ceci induit automatiquement la formation. La formation la plus large, comme a dit Dapa tout à l'heure, c'est-à-dire qui intéresse aussi bien, voilà, le personnel de santé en entier, et bien sûr la population, parce que les deux allant de pair, éveillé, prêt, connaissant, conscient de la réalité, eh bien ça évitera un certain nombre de choses. Et je voudrais ajouter que pour le cancer du sein, c'est un peu particulier. Parce que moi, je préfère parler de diagnostic précoce que de dépistage. Parce que les lésions précancéreuses, c'est-à-dire ces états qui précèdent la survenue de cancer dans les cancers du sein, sont difficiles à mettre en évidence, y compris en faisant la mammographie et l'échographie. Par contre, ça permet d'avoir un diagnostic précoce, c'est-à-dire de mettre en évidence quelque chose qui existe, qui a une traduction clinique, mais qui a un stade encore très limité, ce qui permet d'avoir un résultat intéressant sur le plan thérapeutique.
Professeur Judith Koulibaly, j'imagine que vous constatez la même chose à Abidjan, les patients et les patientes viennent tardivement.
Les patientes viennent tardivement en consultation, beaucoup pour des raisons d'information, comme nous l'a dit Madame la ministre de la Santé, et puis certaines, on l'a découvert au cours de certaines études, pour des raisons de négligence.
Par peur, en fait?
Par peur, mais aussi certaines qui disent, elles sont pas nombreuses celles-là, mais qui disent qu'elles savent, mais bon, elles ont pas forcément le temps. Parce que comme le professeur Gombe vient de dire, c'est détecter quelque chose chez quelqu'un qui se sent en bonne santé. Donc,
et donner des traitements à quelqu'un qui se sent en bonne santé, voilà. C'est toujours compliqué. Il y a une petite chose importante dont on n'a pas parlé, c'est l'augmentation de la consommation de tabac en Afrique. On sait que ça fait aussi lit de cancer. C'est un souci pour vous, docteur Koulibaly?
Oui. Mais...
ça explique l'augmentation des cancers que l'on ne voyait pas beaucoup, comme les cancers du poumon.
On arrive à la fin de cette émission. Docteur Raymond Goudou-Koffi, est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion?
On ressent l'engagement des différents gouvernements à se battre contre le cancer de façon générale, parce que s'il y a une population qui est très très vite touchée par le cancer, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le cancer du sein qui est le premier cancer. Je dois dire que par rapport à cela, nous lançons bientôt un concept appelé Ma Santé, Ma Vie. Et ce concept-là va permettre aux populations de se prendre en charge de façon précoce, c'est-à-dire de se dire c'est possible très précocement d'aller par exemple faire un check-up le plus simple possible, que la numération formule sanguine. Et en même temps, il y a les questions de sport qui accompagnent
l'hygiène de vie,
lutter contre la sédentarité, surtout pour ceux qui travaillent dans les bureaux. Dans ce nouveau concept, nous allons le lancer vous avez la primeur, nous allons le lancer très prochainement pour que toutes les populations adhèrent et que tout ce qui est maladie non transmissible puisse être aujourd'hui bien régulé.
Et bien prise en charge. Un mot de conclusion, docteur Alain Toledano, de l'hôpital américain.
Alors, je dirais que la première partie du combat, elle a déjà avancé. Cet inconscient collectif qui s'est saisi de l'histoire du cancer. Autrefois, avoir un cancer, c'était comment on va faire pour survivre. Ensuite, ça a été comment on va vivre avec. Maintenant, comment on va en guérir. Au quotidien, moi, je vois une énergie, une exigence d'avoir des traitements de qualité. Et finalement, c'est cette pression qu'ont mis les patients sur leur système de santé, sur leurs systèmes médicaux, qui a fait que ça va bouger autour. Et je crois que c'est une bonne chose. Et on le fera tous ensemble.
Merci beaucoup à tous et vous nous tiendrez au courant de cette coopération Nord-Sud et Sud-Sud sur l'accès au traitement contre le cancer. Merci à tous et à demain.